Bonjour.
Bonjour. Alors en fait, je m'appelle Alain Imbeau. Mon pseudo sur Internet s'appelle Isaac, pour ceux peut-être qui ont déjà sont un petit peu intéressés par rapport à la musique libre. Et nous représentons en fait l'association Musique Libre. Et nous allons discuter en fait avec vous de l'état des lieux un petit peu de la musique libre en France, parce que notre association aujourd'hui a 10 ans. Enfin aujourd'hui.
Cette
En
année.
tout cas cette
Cette
année.
année.
L'idée, elle est d'aller un peu plus, de faire un petit peu un état des lieux de ce qui a avancé et des chantiers en fait qui restent un petit peu plus sur la musique libre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut représenter? Quelles sont les possibilités pour les artistes et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire aujourd'hui? Et éventuellement, qu'est-ce qu'il y a, tout ce qu'il y a encore à avancer et à travailler? Lionel Morel, juste avant, nous parlait du droit d'auteur, des avancées nécessaires pour le droit d'auteur. Il y a énormément de travail aussi à faire là-dessus. Et nous, en fait, on a hérité en fait d'une situation qui est assez intéressante au niveau de la musique. Donc, on va pouvoir vous en parler. Musique Libre, en fait, c'est une association qui existe depuis 2004. Mais avant 2004, il y avait quelqu'un qui s'appelait Ram Samudrallah qui a écrit un texte qui s'appelle La philosophie de la musique libre et qui a été traduit par les anciens fondateurs de notre association en 99. Et il a écrit plusieurs textes en fait sur ces questions-là, qui essayaient de définir en fait qu'est-ce que ça pouvait être la musique libre au regard de ce qui existait dans le logiciel libre. La question de la diffusion, la question de la création, la question de la distribution de la musique étaient des questions qui étaient au centre de sa réflexion et qui ont permis en fait de travailler à ce que on puisse imaginer des manières en fait de calquer un petit peu ce qui se faisait en fait dans le logiciel libre par rapport à de la musique libre. Et ce petit travail-là de réflexion a été intéressant puisque au même moment de la traduction du coup du manifeste de Ram Samudrallah en 99, ont été créés les Creative Commons en 2000, ont été créées la licence Art Libre en 1999. Donc c'est tout un mouvement qui s'est enclenché à ce moment-là autour des musiques libres et autour de ce qu'on peut appeler en fait une idée en fait de pouvoir cadrer un petit peu les usages par rapport à Internet, par rapport aux droits d'auteur et par rapport à tout ce qui pouvait exister à cette époque-là. Donc c'est vraiment les débuts de tout ça. Et Musique Libre a existé en fait à partir de 2004. Et donc en travaillant là-dessus. Et à partir de 2004, les licences Creative Commons commencent à prendre de l'ampleur. Elles sont traduites en droit français en 2005. Et l'idée du site de Dogmazic, c'est de prendre toutes les licences libres disponibles et de mettre ça en choix aux artistes qui vont pouvoir déposer leur musique sur Internet, sur ce site-là. Et donc sur le site de Dogmazic, il y a eu jusqu'à plus de 36 licences différentes. Vous avez eu les licences Creative Commons, mais bien évidemment, mais il y avait aussi la licence GNU GPL Art, qui est directement liée à la GNU GPL du logiciel libre. Vous aviez la licence Art Libre. Vous aviez d'autres licences dont les plus exotiques peuvent encore exister, puisqu'il y en a encore d'autres licences qui se créent. L'exemple le plus fameux, c'est la WTF Public License. C'est la What the fuck public license, dont le texte de la licence résume à une phrase, faites ce que vous voulez. Donc voilà, cette question-là, en fait, l'idée, elle est vraiment de travailler sur prenez en charge artistes, j'allais dire, vos œuvres, et essayez d'avoir en fait votre vision un petit peu de ce que vous voulez en faire, et le fait d'être libre, c'est ce qui permet aussi ça. Et donc, Dogmazic, la musique libre en France, ça a commencé à peu près à partir de là. Musique Libre est une association. Au regard de d'autres structures qui existent en France, je pense par exemple à Jamendo qui est luxembourgeoise, qui elle est une entreprise qui elle fait du bénéfice avec de la publicité, avec la vente de licences privées pour d'autres utilisateurs et d'autres choses, et qui n'est pas très regardante parfois par rapport aux œuvres qui circulent sur sa plateforme. Nous, on essaye véritablement de faire prendre conscience aux artistes de ce que c'est que la licence libre et de ce que c'est que le droit d'auteur par rapport à leur utilisation des œuvres. Sur notre site, il y a un gros truc sur la documentation, il y a pas mal de choses, donc notamment Ram Samudrallah, vous pouvez le voir, enfin vous lié en fait dessus, quoi.
Oui, il y a des traductions de ces textes, et puis il y a les tableaux des licences, et puis
Voilà.
voilà, il y a des témoignages aussi d'artistes qui sont passés, qui étaient à la SACEM, qui sont passés sous licence libre, etc., etc.
Donc du coup, je vais un peu introduire, en fait, on va faire en fait une présentation à deux entrées. On va d'abord parler en fait de ce qui fait en fait un petit peu ce qui s'est appelé la crise de l'industrie du disque, mais en fait c'est plus la crise de la distribution. Et du coup, c'est comment les artistes, quelles sont les possibilités en fait pour les artistes pour distribuer leurs œuvres autour de la musique. Moi, je vais, donc c'est Simon qui va vous présenter cela. Moi, après derrière, je vais vous présenter la diffusion. Donc, ce qui s'appelle la diffusion, c'est tout ce qui est web radio, radio, les salles de concert, des choses comme ça. Qu'est-ce qui a avancé dans ces domaines-là pour les musiciens par rapport à la musique libre ? Et ensuite, nous allons travailler sur les toutes les possibilités d'évolution en fait, par rapport à ces choses-là, et les possibilités d'évolution dans le droit d'auteur, possibilités d'évolution par rapport à différentes choses que nous, on a pu voir, parce qu'on a fait une assez grosse veille en fait, sur ces questions-là.
Voilà, ouais, ça servira un petit peu de conclusion par rapport à tout ce qu'on aura dit avant. Donc, je vais commencer par rapport à la distribution. Donc, je vais vous faire un peu, en gros, en France aujourd'hui, comment un musicien libre il peut distribuer sa musique, et puis après, comment, enfin, les différences avec un artiste assez musé. Puis après, je vous ferai un petit récap de comment en fait on en est venu là, de l'évolution depuis 10 ans en fait de musique libre en France. Donc un musicien libre, quand il distribue sa musique, quand il fait sa musique, il compose, etc., il enregistre, il produit un CD, il le diffuse ensuite, comment il fait ? Il a accès à, aujourd'hui, pas mal de lieux pour diffuser sa musique enregistrée, pour distribuer plutôt, vu qu'on est en distribution, pour distribuer donc bien sûr sous rémunération la plupart du temps. Le premier, ça va être sur son site en ligne, donc tout ce qui est vente en ligne en fait. Donc les artistes libres, ils ont accès à tout un tas de sites de vente en ligne. Il y en a un qui me vient en tête, c'est Indetouch, qui a été fondé par CD Indé. Qui est un site de vente en ligne de musique, enfin de streaming et de vente, et là-dessus vous pouvez avoir de la musique libre. Il y a certains artistes libres qui se diffusent là-dessus. Il y en a un autre, c'est Juno par exemple aussi, une autre plateforme de diffusion comme ça. Ensuite vous avez donc ce que j'illustre là, non, reviens en arrière. Ce que j'illustre là, donc c'est vous avez les disquaires. Simplement, un artiste libre, il peut prendre ses paquets de CD et puis aller chez X disquaires et puis leur dire, moi je veux diffuser ma musique, et puis s'arranger, etc. On est bien d'accord, ça reste relativement difficile. Mais c'est faisable, c'est possible. Il y a des possibilités de chaînes de distribution, notamment en passant par des associations qui ont pris l'habitude de faire ça, que ce soit chez des disquaires relativement reconnus ayant pignon sur rue, ou que ce soit plutôt chez les disquaires underground qu'on va trouver en soirée ou dans d'autres lieux encore. Comme on peut en trouver. Le dernier lieu pour le musicien libre pour diffuser sa musique enregistrée, pour vendre sa musique enregistrée, c'est la vente par souscription en fait. Je le divise par rapport à la vente en ligne, qu'elle soit sur une plateforme ou sur le site de l'artiste, mais pas tout simplement parce que la souscription est une des pratiques qui se faisait avant la musique libre, qui continue de se faire avec la musique libre et qui est toujours aussi effective depuis. Donc voilà. Par rapport à ça, la musique qu'on va appeler aujourd'hui, ça s'est misé grossièrement, histoire de simplifier un peu la vie, pour faire le point là-dessus, la musique, les musiciens qui sont à la SACEM sont ceux qui mettent par défaut, hors exception, leur musique sous copyright, donc ils ferment leurs droits et pour avoir de la rémunération. Et puis, les musiciens libres, eux, sont hors SACEM, ils sont en ce qu'on appelle en gestion individuelle. Donc, ils gèrent eux-mêmes leurs droits et c'est eux qui déterminent qui ou quoi va utiliser leur musique quand et où. Donc, par rapport à la musique sassémisée, elle a aujourd'hui les mêmes canaux de distribution en fait que la musique libre. Le seul point qui lui est accessible, qui n'est pas accessible à la musique libre, c'est la grande distribution, tout simplement. La grande distribution, on peut parler de... Alors là, on va pouvoir passer là, parce que du coup, j'ai pas parlé des netlabels, mais c'est pas très... J'en parlerai après. Donc, c'est la grande distribution... donc Carrefour, Leclerc, tout ça, oui, c'est des endroits où on trouve des CD aussi, oui. Et puis, bien sûr, la FNAC, etc., etc., tous ces types de revendeurs. Effectivement, j'ai oublié d'en parler, mais la musique libre passe aussi par des net labels. Donc, tout ce qui est label de musique, donc, qu'on appellera autoproduit, bien souvent... diffuse des CD à prix sonnant et trébuchant, pas nécessairement cher, mais quand même.
Et donc des poulpes et des vaches, quoi.
Voilà, entre autres. Il y en a plein d'autres. Hein. Je vais vous en citer quelques-uns des labels. Vous avez Sirona Records, vous avez Tainia Solum qui sont à Grenoble, vous avez l'AMMD qui est une association qui vient du Mans.
Il y a pas mal de liens sur le site de Dogmazic déjà, sur la page du blog. Il y a pas mal de liens, beaucoup de labels qui existent, de collectifs qui existent en France, mais un peu ailleurs, parce qu'on a recensé même des collectifs qui font de la musique libre en Indonésie. Sur Dogmazic, sur l'archive, il y avait aussi notamment des gens qui diffusaient de la musique, de la chanson traditionnelle limousine. Voilà, il y a un éventail qui va du black metal indonésien à la chanson périgourdine, qui est assez intéressant.
Ouais, effectivement. Et ce qui est intéressant par rapport à mon disquaire de juste avant là, c'est que bien souvent ce sont ces labels-là, ce qu'on appelle les net labels. Alors bien souvent qui ont quand même des lieux de représentation bien physiques, mais qui ont certains canaux de distribution pour pouvoir atterrir chez certains disquaires. Donc c'est par là que la musique libre peut se diffuser dans ce biais-là. Par rapport à l'évolution, ce qui est intéressant, c'est que il y a 10 ans, tout ça n'existait pas, peu ou prou. Le seul moyen de vendre sa musique pour un musicien libre, c'était de graver son CD et puis d'aller le porter soi-même chez le disquaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la plupart des structures qui existent maintenant, il y avait assez peu de net labels et il y avait assez peu de plateformes de vente en ligne qui autorisent l'usage des licences libres par les artistes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne se faisaient pas des choses déjà en sous-main, mais en tout cas, on a aujourd'hui dans le paysage français une vraie généralisation des canaux de distribution, que ce soit underground ou semi-underground. On peut vraiment trouver de la musique libre en CD un petit peu partout. Voilà. Je vais te passer la parole, Alain, sur la diffusion. Donc là, pour le coup, on va quitter le domaine de la commercialisation et parler uniquement de diffusion.
Ce qui est intéressant de savoir, en fait, par rapport à la distribution, c'est que le marché de la musique, en fait, il est en France, notamment, il y a notamment la SACEM qui est importante, en fait, pour vendre ses disques aussi. C'est-à-dire, quand vous êtes artiste, quand vous voulez diffuser votre musique, vous devez d'abord payer à la SACEM une avance pour pouvoir presser votre disque, par exemple. Et après, la SACEM vous renvoie, en fait, au bout de 6 mois, souvent, cette même somme, moins ses frais de gestion à elle. Donc, ça veut dire que pour presser un disque, pour pouvoir distribuer un disque physiquement, vous devez investir. C'est un investissement, en fait, derrière. C'est un investissement que vous allez faire aussi en prenant en compte ces frais de la SACEM. La musique libre, il n'y a pas de frais de SACEM. Par contre, les plateformes de distribution de vente de morceaux en ligne, telles que Juno, par exemple, ou de Bandcamp, eux, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a les royalties et puis il y a les redevances pour droits d'auteur. Les royalties, c'est quelque chose qui est négocié, c'est un pourcentage par rapport aux ventes qui est négocié suivant les plateformes. Donc vous avez le choix plus ou moins. Certaines plateformes vont pouvoir vous donner 2%, d'autres 5%, d'autres 8%. Ça dépendra beaucoup des plateformes. C'est vraiment de la négociation presque cas par cas, comme un peu dans les labels. Et les redevances SACEM, c'est des choses que le site internet en fait est obligé de verser à la SACEM pour pouvoir faire, exercer son activité et pour pouvoir vendre des choses. Et du coup, c'est des redevances qui s'appellent des redevances pour droits d'auteur, ce qu'on appelle en fait en gros en France les droits d'auteur, mais en fait c'est très abusif de dire les droits d'auteur. On ne rémunère pas un droit d'auteur, on paye des redevances pour droits d'auteur en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, en tant que musicien libre, toucher ces redevances pour droits d'auteur si on n'est pas à la SACEM. C'est-à-dire que des sites comme Juno, par exemple, vont pouvoir vous redistribuer en fait ces sommes à vous directement au lieu de les distribuer à une société de gestion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ces choses-là n'étaient pas du tout possibles. Parce que pour eux, vendre un morceau à l'époque, c'était être forcément professionnel, c'était être forcément passé par la SACEM, et donc c'était forcément passé par le canal SACEM. Et que si les gens ne voulaient pas passer par le canal SACEM, ça veut pas forcément dire que ces gens-là n'étaient pas professionnels, ça voulait juste dire que les gens n'y allaient pas encore, ou ils iraient peut-être. Donc, ces plateformes-là, vous refusez en fait de vous verser ces sommes en arguant que bah, peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, bah, vous serez à la SACEM et puis là, à ce moment-là, on vous filera les sommes.
Oui, oui, il y avait un fonctionnement vraiment mécanique de fermeture qui était aussi lié au fait de, enfin, à un calcul très très simple qui était de dire mais si je vous diffuse vous, ça veut dire que je diffuse pas quelqu'un qui est potentiellement sacémisé, ce qui veut dire que par rapport au forfait que je paye, je perds de l'argent. Et donc du coup, bah, de facto, on ne va pas diffuser de la musique libre, quoi. Donc oui, effectivement, il y avait ce calcul mécanique qui était fait, qui maintenant n'est plus nécessairement fait sur les plateformes de diffusion en ligne et de distribution en ligne.
Ouais. Après, c'est une des questions qu'il faut savoir. Alors après, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance par rapport aux droits d'auteur, aux droits d'auteur par rapport aux musiques. Et toutes ces choses-là, puisqu'il y a, alors si je dois faire peut-être un petit panorama très rapide là-dessus, sur le droit d'auteur, vous avez le droit moral, qui est incessible, perpétuel et inaliénable, qui est une partie très franco-française du droit d'auteur, sur laquelle vous pouvez demander de l'argent. Par contre, vous pouvez demander à ce qu'une œuvre soit retirée du commerce, vous pouvez demander à ce qu'une œuvre soit totalement détruite, ce qui arrive très, très récemment d'ailleurs, c'est avec 20 000 pages d'un mathématicien qui est mort très récemment, qui a donné des écrits à l'université de Montpellier, et qui a dit, dans ses volontés d'auteur, parce qu'il y a des volontés d'auteur, qui est de dire ces 20 000 pages-là, de tout ce travail-là de ma vie de mathématicien, je veux qu'elles soient détruites. Et là, le souci, c'est que on se pose la question, parce que la volonté du droit d'auteur, là, elle peut rentrer en fait en
ligne de compte.
Comment ?
En ligne de compte.
En ligne de compte, ou en tout cas, elle peut rentrer en contradiction avec l'intérêt commun. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir à peu près jusqu'où les limites peuvent se faire. Bref, c'était la petite parenthèse sur le droit d'auteur, le droit moral. Voilà. Oui. C'est un article de Libération sur le mathématicien. Je loupe son nom. C'est Grosse. Comment ? Grotendi, oui, ouais, merci.
Oui, oui, il est mort.
Merci.
C'était jeudi. Et par rapport à ça, il y a une anecdote un peu du même acabit par rapport à Kafka et à la métamorphose, et donc à toutes ces notes, toutes les notes de Kafka sur la métamorphose, qui, pareil, il avait donné ordre à ses descendants de détruire tous ses carnets, et ses descendants ne l'ont pas fait, en l'occurrence.
Mais voilà, c'est la question là du droit moral, donc autre chose. Et après, derrière, dans le droit d'auteur, vous avez le droit patrimonial. Tout ce qu'on peut faire comme argent, j'allais dire, je crée une œuvre et du coup, j'ai le droit d'en faire ce que j'en veux. Et dans ces questions-là, après, vous avez deux choses qu'il faut un peu écarter. Vous avez la question des royalties qu'on peut négocier dans un contrat. C'est une question très anglo-saxonne, mais qui existe en France. Tel pourcentage que vous allez avoir sur les ventes d'un disque, c'est tel pourcentage que vous allez avoir sur les concerts que vous allez avoir, les entrées de concerts. C'est des choses qui se négocient très facilement, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans d'autres domaines artistiques, et même dans le livre. Et vous avez une partie qui est très spécifique à la musique, c'est la partie des gestions des droits d'auteur, ou la gestion des redevances pour droits d'auteur, et là, du coup, c'est les sociétés de droits d'auteur qui sont ici. Donc, par exemple, pour la musique, c'est la SACEM. Et là, il y a un vrai monopole de fait, pas dans la loi, ce qui est important de savoir et de le savoir, que ce soit ces sociétés-là, d'auteurs, qui gèrent en fait ces sommes-là, qui gèrent le fait que quand vous diffusez, par exemple, quand une kermesse d'école doit se faire et qu'elle doit inviter des gens, elle doit payer une redevance à la SACEM. Parce que la musique, donc comme disait Lionel Morel juste avant, la musique pour la SACEM est considérée comme, bah, par exemple, comme l'électricité qui est nécessaire pour faire tourner, pour allumer une salle de spectacle. Donc la SACEM, elle considère que la musique, c'est exactement la même chose. Donc même si votre activité, elle est déficitaire, bah, elle considère que bah, vous avez aussi utilisé l'électricité, vous avez aussi payé l'électricité, donc la musique doit aussi être payée au même titre. C'est à peu près c'est la vision de la SACEM. Et donc ça veut dire que pour la diffusion, la SACEM va mettre en place des forfaits selon telle ou telle utilisation de la musique. Et ces forfaits sont, comment dire, sont particuliers parce qu'il y aura tout un tas de critères qui vont être appliqués. Le nombre de personnes accueillies dans le festival, le nombre de personnes accueillies dans la salle, la puissance en watts de votre structure. Si vous avez le malheur dans un bar, par exemple, d'avoir juste une radio qui diffuse de la musique, vous devez payer la SACEM. Ou même si la radio elle est en panne, vous devez payer la SACEM quand même. Même si c'est un truc cassette ou je sais pas moi, une radio hertzienne, et que dans 20 ans les radios hertziennes n'existeront plus parce que tout sera en radio numérique terrestre, mais que vous avez encore ce poste-là chez vous, vous devez quand même payer la SACEM. Donc c'est cette question-là, du coup, qui est derrière, et qui, pour beaucoup de commerçants, pour beaucoup d'activités même associatives, pose problème parce que du coup, la circulation de la culture se trouve entravée par ces règles-là. Et la question de la diffusion, elle est très importante. Parce que si on place du coup sur des gens qui ne sont pas à la SACEM, ils ont accès à quoi au niveau des canaux de diffusion ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément accès, parce que, je vais prendre le truc à rebours, mais on va essayer de faire passer les choses. Après, les centres commerciaux, quand vous allez dans un centre commercial, vous allez écouter de la musique. Le centre commercial va négocier un forfait à la SACEM pour dire je veux utiliser toutes les musiques que je veux. Donc ils vont payer la SACEM qui, elle, va redistribuer selon son propre prorata d'artistes qui ont eu les meilleures ventes de CD, les meilleures écoutes à la radio, par rapport à ce qu'elle, elle, a observé du marché de la musique. Si vous êtes un artiste qui fait une dizaine de diffusions dans une radio locale, vous ne toucherez rien de la SACEM, même si vous êtes à la SACEM, ou alors vous toucherez un ou deux euros. Et la question derrière, elle est bien de comment vous diffusez les choses et comment une structure comme la SACEM peut arriver à... ce que je veux dire, c'est que la diffusion implique que celui qui est le plus diffusé va recevoir le plus d'argent. Et la SACEM fonctionne comme ça. Le problème, c'est qu'en se basant sur ses forfaits sur les gens qui sont plus diffusés ou les gens qui sont les plus vendus, les gens qui vont faire le plus de dates dans les concerts, bah ça veut dire que mécaniquement, ça va avantager tous les gens qui font plus de concerts, tous les gens qui sont plus diffusés par les circuits musicaux. C'est-à-dire que tous les artistes qui font, par exemple, il y a une étude comme ça sur la variété dans les radios françaises, sur des playlists de radio, il y a à peu près 30 artistes qui sont diffusés différents, hein, 30 artistes différents qui sont diffusés par énergie sur un mois. Ça veut dire que la diversité culturelle et musicale, elle n'y est pas. Mais ça veut dire que la SACEM, pour rémunérer tous les artistes dans un bar, par exemple, va aussi se baser sur cette non-diversité de ces radios-là. Et c'est aussi un truc qui va aussi, du coup, avantager toujours les mêmes personnes qui vont toucher le plus d'argent. Donc cette question-là. Et la question, en fait, du coup, pour la musique libre, elle est, quand vous n'êtes pas dans ces structures-là, vous pouvez du coup diffuser votre musique sur différents canaux. Et là, Internet a changé et a permis en fait beaucoup de choses par rapport aux musiciens libres. Elle a permis en fait de travailler sur des web radios. Elle a permis de travailler sur la valorisation des initiatives qui existaient déjà avant, c'est-à-dire les radios indépendantes, les radios libres qui existaient depuis les années 80, les radios pirates. Ça a permis en fait de travailler sur des plateformes de diffusion plus intéressantes. Je pense notamment à SoundCloud, je pense à YouTube. YouTube, n'oublions pas que c'est, même si c'est Google et même s'ils posent évidemment des soucis par rapport à la publicité sur cette plateforme, ils acceptent aussi les licences libres. Donc c'est aussi intéressant aussi. Ils acceptent que les licences Creative Commons, mais ils acceptent aussi les licences libres. Donc c'est intéressant aussi de voir que ces canaux-là de diffusion sont aussi intéressants aussi pour les artistes. Il y a aussi les concerts, et c'est vrai que un artiste pour vendre, pour vivre, j'allais dire, n'importe quel artiste, qu'il soit la SACEM, qu'il ne soit pas la SACEM, on va avoir plusieurs canaux, j'allais dire, de revenus. On va avoir la vente de disques, on va avoir les... Merci. je boirai après quand tu parleras. On va avoir en fait les ventes de disques, on va avoir les concerts, on va avoir les utilisations, les projets artistiques qu'on va pouvoir avoir. Et puis il y a aussi du coup les concerts. Mais les concerts, ça représente une grosse part en fait des revenus d'un artiste. Et l'idée, c'est de dire qu'un artiste qui fait de la musique libre, il a aussi tous ces canaux-là. C'est pas parce qu'il va être à la SACEM, ou c'est pas parce qu'il va pas être à la SACEM qu'il va pas pouvoir faire des concerts. C'est pas parce qu'il va pas pouvoir, c'est pas parce qu'il est pas à la SACEM qu'il va pouvoir vendre des disques. C'est pas parce qu'il est pas à la SACEM qu'il va pas pouvoir diffuser sa musique. La question, elle est pas là. Et des musiciens qui sont à la SACEM, des artistes qui sont à la SACEM, qui vivent pas de leur art, qui vivent pas de leur musique, il y en a des tonnes. 95% des musiciens qui sont à la SACEM vivent pas de leur art. Et pourtant, en s'inscrivant à la SACEM, ils ont un petit peu l'espoir qu'ils sont des professionnels. Et là, la question de l'amateur entre le professionnel et tout, elle est quand même assez prégnante. Et de savoir que c'est pas parce qu'on est à la SACEM qu'on est professionnel, c'est juste qu'on suit un mouvement qui est très global. Pardon. Wow. On suit un mouvement qui est très global par rapport à ça. Et puis peut-être aussi qu'on ne connaît pas aussi les licences libres, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc l'idée, c'est que sur la question de la diffusion, il y a encore pas mal de progrès à faire. Il y a encore pas mal de progrès sur les diffusions sur les radios FM. Il y a encore pas mal de progrès. Merci pour la lumière. Non, même pas. D'accord. Putain. Pardon. On va y arriver. Donc la question, en fait, c'est qu'il y a des choses qui restent encore à faire. Il y a des choses qui restent encore à faire, par exemple, par rapport à la télévision, par rapport à ces canaux de diffusion-là, ou par exemple des publicités, parce que un des plus gros débouchés aussi aujourd'hui pour les artistes, c'est de faire de la musique pour des pubs. C'est de faire de la musique, par exemple, pour la télé. C'est de faire de la musique pour différents projets, différents films, différents projets artistiques. Et du coup, la question, c'est que si vous êtes à la SACEM, ça donne, entre guillemets, des gages de professionnalisme à des structures comme des télévisions, des radios, qui se disent c'est bon, lui il est à la SACEM, il sait de quoi il parle, il connaît ses droits et tout ça. Alors que c'est plutôt l'inverse qui se passe très souvent. Ce sont les gens qui sont plutôt intéressés par les droits d'auteur, qui savent un peu ce que c'est qu'une licence libre, qui savent un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment donner comme autorisation à leurs utilisateurs. Merci pour les. C'est quoi ça?
C'est une image d'abord.
Ah ouais, trop cool. Je sais pas comment faire. Désolé. Faut que je vers le haut. Ouais, mais j'ai essayé tout à l'heure, ça marchait pas, j'avais une caisse de résonance monstrueuse. Enfin, bref. J'essaie de pas rire, parce que je crois que c'est... Hein. Donc voilà, cette question-là. Le fait que la SACEM ait un monopole, de fait, fait qu'il y a des portes qui se ferment, qui sont de toute façon fermées à des musiciens qui sont de toute façon dans l'indépendance, et de toute façon on passe en fait dans les mêmes problématiques, exactement les mêmes problématiques que des musiciens qui sont indépendants, des musiciens qui sont autonomes, que des groupes de punk qui ne peuvent pas avoir de... Je parle des groupes de punk, mais ça peut être n'importe quoi en fait au final. Ça peut être aussi de la musique périgourdine ou du black metal indonésien, que sais-je. Mais voilà, ça peut être aussi ça, la difficulté d'accès aux médias, la difficulté d'accès à des canaux de distribution et de diffusion, elle n'est pas liée à la musique libre, elle est liée au marché global de la musique qui est de toute façon pyramidal et qui est de toute façon qui reprend en fait ces logiques-là.
Oui, je te coupe deux secondes. Effectivement, ce qui est intéressant...
Bon, je te laisse passer. Hein,
ah d'accord, ouais, je complète. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est que la musique libre n'est pas du tout... Est pas du tout cantonnée dans son coin d'une certaine manière. Elle est vraiment inscrite dans la musique underground, de n'importe quel underground, j'ai envie de dire, le black metal indonésien par exemple. Dans cet underground-là, y a du libre, et puis dans l'underground folk, il y a du libre, et puis dans l'underground. Progressive ou jazz, il y a du libre, etc., etc. Et qu'en fait, les problématiques sont devenues plus ou moins les mêmes en termes de diffusion et de distribution. À savoir, comme le disait Lionel Morel, on a le système qui verrouille tout autour de lui et qui nous empêche de passer. Et du coup, ce qui s'est passé aussi sur ces 10 dernières années, c'était que quelque part, le libre était dans une dynamique de, enfin, la musique libre était dans une dynamique d'expansion, d'aller plus loin, d'aller, d'essayer de toucher plein de gens, etc. Et puis finalement, il s'est retrouvé mis un peu à la porte. Alors, il a construit son monde à côté du mainstream, ce que disait encore tout à l'heure Lionel. Effectivement, la musique libre, elle n'est pas mainstream. Et ça, pour le coup, c'est une des limites de ces 10 ans. La musique libre, elle est en alternative et elle est underground. Mais elle est dans le monde de l'underground et il y a un monde de l'underground qui est riche, bien sûr.
Juste un truc, rappelle-moi pourquoi on avait mis des pigeons et des moineaux.
C'était pour dire que c'était la SACEM et puis les... C'était un peu... Voilà. La SACEM et puis les autres à côté. Voilà. Oui, je vais vite fait vous parler de ça. Alors, c'est un espèce de schéma totalement non contractuel, hein, bien sûr. C'est juste histoire de vous donner une petite idée. Mais voilà, si vous voulez, la musique libre, elle rentre dans le mainstream à peu près ici. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a symbolisé ici un peu malicieusement, en fait, c'est ce que Lionel parlait tout à l'heure en parlant de l'expérience CC SACEM. Donc, c'est la SACEM qui a autorisé certains de ses inscrits à diffuser de la musique sous Creative Commons. En fait, voilà, c'est voilà. Et encore, je pense qu'on a été vachement généreux, en fait. Après, comme vous pouvez le voir, on a quand même on a symbolisé les indépendants. Les indépendants, ils sont en grande majorité membres de la SACEM, même si, comme l'a dit Alain, ça rapporte pas nécessairement grand-chose, mais bon, ils le sont. Et dans ces indépendants, il y en a une partie qui est de la musique libre. Et il y a aussi toute une partie de la musique libre qui n'existe pas, en fait, qui est nulle part. Tout simplement parce qu'elle est ni professionnelle, parce qu'elle est, elle est pas dans des canaux de distribution qui ont pignon sur rue, je dirais. Par exemple, tout à l'heure, on avait un slide qui montrait le logo de archive.org. Archive.org, c'est un canal de distribution, enfin, c'est un canal de diffusion, mais on peut pas extraire quelque chose de la masse. C'est difficile de naviguer dedans, c'est difficile de se dire « Ah tiens, parmi toute la musique qui est dessus, je vais choisir un tel plutôt qu'un tel. » Il va falloir en écouter un paquet avant d'arriver à discerner quelque chose du tas. Bah voilà, c'est un peu tous ces gens-là, là, si vous voulez. Et puis, on a les net labels. Et les net labels, eux, ils ont une position qui est intéressante, c'est que, étant donné qu'ils sont bien souvent uniquement présents sur Internet, eux, ils ont le pouvoir de taper n'importe où, même là, c'est-à-dire ceux qui refusent le droit d'auteur. Et il y en a en France, par exemple, les punks dont tu parlais, il y a des punks qui ne veulent pas diffuser, qui disent moi, je veux pas de licence, je veux pas de copyright, je veux rien du tout.
Dans Tiny Asylum, par exemple, il n'y a pas que des punks, hein, y a aussi des artistes électro qui refusent complètement. Quoi, et qui, alors, le truc qui est complexe à voir, c'est qu'en France, le droit d'auteur, c'est que si vous ne mettez rien sur votre œuvre musicale, par défaut, c'est du copyright. Vous avez le droit de rien faire. Donc l'intérêt d'avoir une licence libre, c'est qu'à un moment donné, vous dites aux gens, voilà, vous avez aussi, à minima, vous avez le droit de la partager aux gens. À minima, vous pouvez aussi, par exemple, éventuellement la partager pour des questions non commerciales. Vous pouvez aussi, du coup, la partager aussi en faisant en sorte que les gens puissent après la réutiliser et la réutiliser dans des conditions que vous souhaitez. Donc c'est ces questions-là qui sont intéressantes. La musique libre permet justement de dire aux gens qu'est-ce que les gens peuvent faire de votre œuvre. Sinon, à minima, on ne peut absolument rien en faire.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a on a du coup une pluralité de fonctionnement qui démontre bien la pluralité des pratiques artistiques musicales. Je pense que dans les autres pratiques, ça pourrait aussi se retrouver, notamment en photographie, où il y a beaucoup de vide juridique, dirons-nous. Mais du coup, des gens qui sont ici ou qui sont ici. Ces gens-là, ils existent quand même, et c'est vrai que avec le temps, on arrive à dégager des solutions pour les voir. Pour le coup, je vais dire du bien des Creative Commons, c'est pas souvent, profitez-en. Les Creative Commons ont créé une licence qui s'appelle la Creative Commons 0, qui permet de faire basculer n'importe quelle œuvre dans le domaine public. L'auteur, élève l'œuvre dans le domaine public.
Il place volontairement son œuvre dans le domaine public.
Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui c'est une licence qui vient un petit peu répondre à des gens qui se trouvent ici ou qui se trouvent ici ou qui sont déjà là. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça qui est bien. Alors bien sûr, aujourd'hui on continue quand même à regretter toute la partie grise dont je parle pas trop depuis le début, vous voyez. Par rapport, je vais faire une transition pas très douce, je suis désolé. aujourd'hui, par rapport à ce que disait Alain tout à l'heure sur le fait que on a cette question de l'amateur et du professionnel, c'est des questions qui ont évolué un peu ces 10 années, enfin depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a environ 4-5 ans, c'était vraiment un débat. 5-6 ans, dans ces eaux-là, c'était vraiment un débat brûlant et qui remuait beaucoup, c'est-à-dire même du côté des professionnels de la musique, entre guillemets, les professionnels de la musique, eux-mêmes disaient « Ah, mais c'est pas possible, lui, c'est un amateur, etc. » Et puis, c'était très difficile, par exemple, pour un musicien, entre guillemets, amateur, d'avoir sa musique utilisée pour un film, pour un court-métrage. Pour un court-métrage qui a pignon sur rue et qui passe dans des festivals, j'entends. Pas pour un court-métrage fait par son voisin ou son copain. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a depuis 4 ans, et notamment grâce à l'utilisation des licences libres sur des plateformes comme Bandcamp notamment, c'est vrai qu'on a une grande ouverture là-dessus dans les esprits des gens, c'est-à-dire que les musiciens, quand on leur parle de licence libre ou de, ils se disent pas, ils ont pas tout de suite leur ampoule amateur qui s'allume dans leur tête, parce que d'un point de vue logiciel, création, home studio, etc., on a atteint des standards qui sont aussi bien, voire même mieux que la musique dite professionnelle, fait avec des logiciels professionnels, etc., etc., et dans des conditions professionnelles. Ça j'en ai parlé. une des choses aussi par rapport à l'hégémonie de la SACEM, tout ça, c'est un peu redondant du coup de passer après Lionel Morel parce qu'on répète des trucs dont il a parlé. Il y a une société d'auteurs qui est en train de se monter en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de fonds initiaux, ça qui a été clos, après il y a eu une espèce de Kickstarter qui a été fait, ou je sais plus ce que c'était.
C'est une campagne de dons en fait de plus de, je crois, 300 000 euros. La société y demandait en fait 300 000 euros. Un site qui s'appelle Startnext qui est en Allemagne. Et en fait, ils ont réussi à avoir leur financement de 300 000 euros pour la création d'une société d'auteurs. Donc je ne sais pas si vous seriez prêt à financer une société d'auteurs. Ce n'est pas tellement une idée qui est très mainstream, ou en tout cas très grand public, de financer une société d'auteurs. Mais en tout cas, eux, ils ont réussi à lever 300 000 euros là-dessus. Voilà. Juste pour la petite parenthèse, mais...
Et effectivement, ce qui est intéressant avec cette société d'auteurs, c'est qu'ils se proposent de prendre en compte les licences libres et notamment de plus demander aux auteurs de s'inscrire nominalement dans la société, mais d'enregistrer leurs œuvres. Et du coup, d'associer en tout cas leur nom à une œuvre. Et du coup, de ne pas avoir les restrictions qu'il y a à la SACEM, notamment sur la durée obligatoire pendant laquelle on est inscrit, les difficultés pour se désinscrire, l'impossibilité de pouvoir faire cohabiter les licences libres avec d'autres types de gestion, et notamment le copyright. Voilà. Et ça, c'est une des évolutions qui est vachement intéressante. C'est quelque chose qui est surtout intéressant parce que dans le monde de la musique, ça a le potentiel de toucher tous les musiciens. C'est-à-dire pas seulement vous, moi, pas seulement les...
Les pigeons et les moineaux.
Ben, pas seulement les moineaux, justement. C'est que ça peut toucher aussi les pigeons. D'une certaine manière, on pourrait imaginer Jean-Jacques Goldman aller dans une société de gestion comme celle-là, quoi. Il pourrait le faire. Il le fera peut-être pas, mais... Peu importe, en tout cas, si un musicien a besoin de la gestion collective parce qu'il veut pas s'embarrasser de licence, il veut pas s'embarrasser de, voilà, il veut juste mettre ses trucs, faire sa musique et puis qu'on lui ramène de l'argent, eh ben il pourra le faire. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le fait que tout le monde est pris en compte dans l'affaire et qu'on n'est pas seul, juste la musique libre dans notre coin ou juste la musique underground dans notre coin. Oui, j'allais enchaîner. Après, sur effectivement, donc dans les choses qui restent à faire, parce que pour le coup, c'est là qu'on est. Dans les choses qui restent à faire, il reste dans la musique en général en France à dégager un modèle économique. Ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on parle avec des gens de labels physiques, des musiciens, etc., c'est que personne n'est content en fait. Personne n'est content. Les musiciens, ils sont pas assez payés. Les labels, ils galèrent trop à fonctionner. Rien que leur coût de fonctionnement les tue à moitié. C'est beaucoup de motivation, c'est beaucoup de voilà. Et les musiciens libres, c'est pareil, quoi. Ils ont pas assez de diffusion. Quand ils ont une opportunité de passer à la radio, on leur dit que non, ça va pas être possible parce que voilà. Personne n'est content. La SACEM est pas contente parce qu'il y a des tas de gens qui diffusent de la musique et puis eux, ils touchent rien alors qu'ils devraient. Enfin, voilà. Personne n'est content. Et il y a vraiment, à mon avis, un travail à faire sur pas le fait de contenter tout le monde, ce serait beau, mais ça va être difficile, mais simplement d'arriver à unifier le panorama, unifier la vision, unifier, dire on va revenir en arrière. On a toutes ces pratiques là, toutes ces envies en fait de pratiques, et qui sont toutes différentes, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et ce serait vachement bien d'avoir quelque chose qui arrive à les rassembler toutes, quoi, et à faire que ce soit plus des cas particuliers, mais plutôt une affaire générale dont tous les musiciens s'occupent tous. Et c'est aussi une des missions de notre association.
Ouais, enfin, une des missions de notre association, c'est d'arriver en fait à informer sur toutes ces choses-là aussi. Alors travailler sur la documentation, ouais, c'est bon, c'est bon. Je pensais que j'avais plus de son en fait, mais en fait c'est bon. Je devrais tousser plus souvent pour savoir si j'ai du son dans le micro. Une des questions en fait qui sous-tend un petit peu la question des enjeux de la musique libre, c'est la question, c'est qu'il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont évolué positivement parce que des mécanismes sur Internet ont permis en fait la prise en compte d'un nombre quand même assez important et de plus en plus important de gens qui publient leur musique ou leurs œuvres musicales sur Internet. Et donc, du coup, ces ouvertures-là ont permis à des musiciens de travailler, d'avoir des revenus par rapport à des ventes qu'ils vont pouvoir faire sur Internet, par rapport à des concerts qu'ils vont pouvoir faire. Et toutes ces choses-là, en fait, ont évolué de manière assez positive. La question, pour nous, elle est de dire, ça ne suffit pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels la musique libre, elle est pas présente. Et l'enjeu derrière de faire en sorte que la musique libre soit plus présente, c'est l'enjeu derrière de travailler sur toutes les notions de droit d'auteur, de pouvoir réutiliser, de pouvoir travailler sur des biens communs autour de la musique, de pouvoir travailler sur tout ce qui est remix possible ou pas possible, de travailler sur toutes les pratiques de mash-up, et toutes ces questions-là que les musiques libres permettent ou permettent pas selon les licences, mais toutes ces questions-là de sensibilisation sur le droit d'auteur, toutes ces questions-là sur la sensibilisation de la réutilisation des œuvres, voilà, on va y arriver, ça permet en fait d'initier en fait une idée que le musicien, il n'est pas tout seul, enfin, l'artiste, il n'est pas tout seul. L'artiste, il peut aussi prendre en compte son public. L'artiste, il peut aussi prendre en compte le fait que l'œuvre qu'il va faire, ou la création qu'il va faire, ou l'action, ou le projet qu'il va faire, le projet artistique qu'il va arriver à faire, il va pouvoir après, derrière, le diffuser, et que du coup, d'autres personnes puissent après s'en emparer, et que ça ne va pas, lui, le mettre en danger par rapport à sa pratique artistique. Et c'est cette question-là qui est vachement importante, parce que quand on travaille sur les questions autour de la musique libre, la question des droits d'auteur, il ne faut pas scinder la question des droits d'auteur par rapport aux revenus des artistes. Les artistes, qui soient indé, underground, musique libre ou pas, dans tous les cas, s'ils veulent vivre de leur musique, il faut qu'ils fassent de la pub, qu'ils passent à Canal+, qu'ils arrivent dans une major et qu'ils signent chez Vivendi. Enfin, voilà, ces questions-là. Si vous voulez faire de la musique et que vous voulez vous faire plaisir, exprimer des choses et travailler sur une expression artistique, vous pouvez faire ça sur tous les domaines que vous voulez. Et la question, elle n'est plus sur la manière d'être rémunéré ou pas. La question, elle est plus sur qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, et que si vous créez quelque chose, ça puisse être réutilisable et que ça puisse alimenter un pot commun et quelque chose qui puisse essaimer sur plein d'autres choses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions maintenant ?
Moi, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur la SACEM. Vous disiez qu'à chaque fois qu'un bar ou un lieu public diffuse de la musique, ils doivent payer des droits, ou si c'est bien ça. Je voulais juste une question par rapport au réseau de bus, Tisséo. Ils passent de la musique constamment dans les métros. Et je voulais savoir si c'était de la musique libre, enfin, si vous connaissez quelque chose.
Alors,
parce que c'est une musique assez spéciale, de ce que j'ai entendu, c'est pas mal de reprises, c'est alors, des trucs underground, comme vous dites.
Alors si c'est de la reprise, c'est forcément affilié à la SACEM, puisque les mecs qui font de la reprise, sauf s'ils font de la parodie, parce qu'en droit d'auteur, il y a une petite exception au niveau de la parodie, sauf s'ils font de la reprise, ils font de la reprise de musique qui sont à la SACEM, donc ça veut dire que les œuvres qu'ils ont fait, c'est-à-dire ces artistes-là, pour faire leur remix, la maison de disque qui les a produits, ou le label qui les a produits, a dû payer à la SACEM pour qu'ils aient l'autorisation de faire leur remix, et qu'ils puissent le vendre. Donc, la question elle est simple, c'est, par exemple dans des réseaux comme des bus, tout ça, je pense qu'on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait un vrai partenariat avec des musiciens libres de toute une région qui puissent faire en sorte que la société de bus puisse diffuser que de la musique libre, parce que du coup ça va être que des artistes de la région, et que du coup la société de bus puisse financer des net labels, des labels par-ci par-là, des assos culturels, tout ça, pourquoi pas. Mais du coup le problème c'est qu'aujourd'hui c'est pas possible, c'est plus la SACEM qui derrière va être rémunérée par rapport à ces artistes. Et si c'est des artistes qui sont pas connus, bah déjà, si tu fais un remix en tant qu'artiste pas connu, déjà tu fais pas de la création, tu fais de l'interprétation. Donc du coup, on n'est plus dans le droit d'auteur, on est dans ce qui s'appelle le droit voisin du droit d'auteur. C'est-à-dire que du coup, tu fais de la réinterprétation, et là du coup, tu récupères pratiquement rien par rapport à ce que tu vas, par rapport à un artiste qui est auteur, compositeur, éditeur de sa musique. Donc, à mon avis, la SACEM doit récupérer des sous.
Ça marche par forfait. Tisséo paye un forfait pour...
Pour diffuser la musique qu'elle veut. Enfin. Il y a des chances que ça soit comme ça, parce que c'est moins compliqué à gérer pour n'importe qui.
Et après, je connais pas le cas précis de Tisséo, parce que voilà, je suis pas de Lyon, enfin je suis pas de Toulouse, je suis plutôt de Lyonnais, et du coup, je peux pas te donner vraiment le détail du dossier de Tisséo, parce que je le connais pas, mais il y a très forte chance que, à partir du moment où tu diffuses à partir du moment où une société commerciale diffuse de la musique, même si c'est un truc que tu connais pas, il y a de fortes chances que ce soit de la musique utilisée sous sa scène.
Voilà. Donc la musique libre dans les transports en commun, c'est pas possible pour le moment.
Bah ça peut être faisable, mais du coup c'est un projet à monter quoi. Si t'as envie de monter un super projet là-dessus, il y a aucun souci, je pense. Hein. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont peut-être qui utilisent de la musique libre dans le coin, qui seraient super contents pour pouvoir diffuser leur musique dans le bus, et que du coup après la TCO par exemple pourrait se dire bah tiens, du coup ça va valoriser mon action d'entreprise. Donc là on est plus dans le mécénat, tu vois, l'esprit du mécénat, du partenariat de mécénat, qui est de dire qu'une entreprise va pouvoir financer culturellement par rapport à son activité commerciale, du coup, des assos culturels et tout ça. Quoi. Et je pense qu'il peut y avoir un montage de projet qui peut être intéressant là-dessus.
Oui, en fait, vous avez dit tout à l'heure que Jean-Jacques Goldman, il pourrait prendre une licence en musique libre, mais s'il le fait, est-ce qu'il va gagner autant d'argent qu'avec la SACEM ?
En fait, on a dit qu'il pourrait s'inscrire dans une société d'auteurs allemande qui s'appelle la C3S. Et qui, elle, en fait, permettrait en fait, des auteurs de travailler sur... Enfin, pouvoir déposer leur musique directement. Et en fait, la question, c'est que Jean-Jacques Goldman, aujourd'hui, il est auteur, compositeur et éditeur de sa propre musique. C'est-à-dire que, si vous connaissez le cycle de la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. dans un droit d'auteur, quand vous récupérez sur votre musique, vous êtes auteur et compositeur, on va prendre le cas le plus sympa, pour, qui est souvent le plus intéressant pour un auteur, vous récupérez 50% de la somme. Les 50% autres, c'est l'éditeur. Donc Jean-Jacques Goldman a très bien compris la chose, il a monté sa propre société d'édition pour récupérer tous les droits. Ce n'est pas forcément accessible à tous les artistes. Mais voilà, donc du coup la question, elle est... Une C3S, c'est quelque chose par exemple, la société d'auteurs C3S, elle a pour vocation, dans ses statuts, dans sa volonté, c'est de travailler avec tout le monde. Donc, ils vont aussi s'adresser à du Jean-Jacques Goldman. Ils vont aussi s'adresser à un groupe de punk de death metal indonésien ou périgourdin, on s'en fout. Mais la question derrière, elle est là. Quoi. Pour eux, ils veulent travailler avec tout le monde. Et ils veulent faire en sorte que... Alors après, c'est peut-être plus dans la description de la société, mais un des fonctionnements de cette société, c'est de dire... Au plus les gens vont être diffusés, au moins ils vont être rémunérés. C'est un rebasculement de choses, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes dans une société pendant... Vous avez un super tube qui va être diffusé, vous allez être rémunéré au départ bien, et puis petit à petit, ça va être dégressif. Selon les années, ça va être dégressif. Et cette dégressivité, la différence va être en partie pour financer la C3S, et en partie pour financer les artistes qui vont rentrer dans la C3S. Donc là, il y a une redistribution qui se fait, une redistribution des cartes qui se fait par rapport aux artistes qui sont les plus diffusés, par rapport aux artistes qui sont le moins diffusés, ou alors aux artistes qui rentrent juste dans la société. Et c'est un fonctionnement comme ça qui est inversé, qui est assez intéressant. Je ne sais pas si Jean-Jacques Goldman, au final, va y laisser des plumes ou pas, mais ce qui compte, c'est que du coup, c'est un fonctionnement qui est assez intéressant parce qu'il renverse pas mal de logiques par rapport aux sociétés d'auteurs habituelles et par rapport aux logiques de diffusion globale telles qu'on peut l'avoir, quoi. Et qu'il exclut aussi, au final, aucun artiste, parce que du coup, il s'adresse à tout le monde. Tu veux peut-être répondre aux questions ?
Bonjour.
Bonjour.
Ma question, elle est sur le droit de l'interprète,
oui.
Notamment sur la Speedy Dame, qui est l'équivalent de la SACEM pour les interprètes. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le projet, la musique libre, est-ce que du coup les interprètes doivent l'être aussi ? Si je suis compositeur et que je compose une musique que je veux libre, est-ce que mes interprètes de ma musique, le groupe que j'engage pour jouer ma musique, doivent avoir ce même type de licence pour toucher leurs droits ou pour...
Alors, un interprète, en fait, il va faire des concerts, ou il va vendre des CD, ou il va faire des enregistrements. Donc la rémunération qu'il va avoir, ça va être sur ces questions, sur ces domaines-là. L'artiste, lui, l'auteur-compositeur, lui, il aura passé un contrat avec l'interprète qui lui aura dit, en gros, je te cède mes droits pour que tu puisses interpréter cette musique-là, et que du coup, tu puisses en vendre une partie. Et puis du coup, tu me files une partie des sous pour sur la vente des CD ou sur la vente des concerts. C'est comme ça, en fait, que ça fonctionne par rapport au contrat de cession de droit. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Non.
Mais ma question est un peu difficile à exprimer, mais...
reprenons. La question, c'est si un auteur diffuse une musique, une musique ou une partition sous une telle licence, est-ce que les interprètes doivent réutiliser la même licence ou changer de licence ou quoi ? Ça dépend de la licence.
Oh.
Et voilà.
J'aurais pas résumé les choses ainsi.
Ça dépend de la licence. En fait, il y a des licences la plupart des licences libres. Je dis des bêtises. Non, il y a des licences en fait qui ont des clauses qu'on appelle de viralité de la licence, c'est-à-dire que n'importe qui fait une œuvre dérivée avec cette licence, donc qui a cette licence, doit placer l'œuvre dérivée sous la même licence. Un interprète qui interprète une œuvre et qui l'enregistre, techniquement, il crée une nouvelle œuvre. Mais pas en tant qu'auteur-compositeur. Il l'a créé en tant qu'interprète. Et cette œuvre, si elle est sous une licence virale, il aura l'obligation de placer la nouvelle œuvre sous la même licence. Simplement pour que la musique ne puisse pas sortir de la musique libre. Qu'elle puisse pas être refermée par le copyright. Après, si la licence ne le précise pas, l'interprète peut en faire tout ce que la licence autorise qu'il en fasse, y compris la rejouer. Par exemple, une Creative Commons, alors pas by ESA bien sûr, hein, by NCND,
by ND
tout court, parce que le, voilà. Donc une Creative Commons, donc qui vous oblige à citer le nom de l'auteur et puis qui vous oblige à faire du non commercial, vous autorisera à publier une interprétation de l'œuvre dans un contexte non commercial.
C'est by NC.
Voilà, à cause du NC. Mais sinon, vous pourrez tout à fait l'interpréter. Et vous n'aurez pas plus de problèmes que ça liés à cette interprétation.
Mais est-ce que c'est commercial ? Est-ce qu'il touchera des droits de la Spédidam ? Il touchera des droits d'interprète ? Donc par rapport à l'auteur de l'œuvre ?
Techniquement, il ne devrait pas toucher de droits.
Ça n'a rien à voir avec le droit.
Et ben alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu sais toi ?
La question des interprètes, elle est pas, c'est pas une question qui est souvent abordée en fait dans nos problématiques, effectivement. Après derrière, l'interprète en fait quand il touche des droits, vous me dites, vous m'arrêtez parce que du coup on ne sait jamais. L'interprète en fait quand il touche des droits, quand il réinterprète des œuvres, il touche les droits par rapport à quoi ? Par rapport à sa prestation ou par rapport à l'œuvre qu'il a réinterprétée ? D'accord.
Ben là, il touche des droits par rapport. Alors, il y a très peu de gens, par exemple en concert, qui payent les droits SACEM, les droits Spedidam, oui. Alors que normalement, dans un monde idéal, ça devrait être payé et retourné. Mais donc, ça n'existe pratiquement pas, ça. Et après, par rapport à de la musique enregistrée. C'est vraiment deux choses complètement parallèles, puisque la licence, même la licence qui va se faire avec un label, je ne parle pas de licence commune, tout ça, avec des royautés, c'est avec l'interprète qu'elle se fait, ce n'est pas avec l'auteur-compositeur.
Oui. Oui. En fait, les choses. C'est... Oui, je vois ce que c'est du coup.
Voilà,
par,
voilà.
Un label, par exemple, avec un artiste qui veut reprendre une musique d'un auteur-compositeur qui est à la SACEM, les choses se font assez automatiquement, c'est-à-dire que le label en question s'adresse à la SACEM. Est-ce que j'ai le droit de reprendre telle ou telle musique par cet auteur qui interprète ? La SACEM dit oui, ok, c'est tant, et du coup le producteur aligne le chèque, et du coup la personne peut réinterpréter l'œuvre. Et après derrière c'est toute une question de viabilité en fait économique pour un label, qui est de dire je vais plus parier sur cet artiste-là qui va me faire une réinterprétation d'une œuvre qui est connue, et du coup je vais récupérer des sous sur cette œuvre qui est connue, qui va me permettre en fait de rembourser du coup les frais SACEM qui m'ont permis d'investir sur cette œuvre-là et sur cette réinterprétation de l'œuvre. La question après sur les licences libres, elle est plus complexe, parce que ça veut dire que quand on a une œuvre en licence libre, elle est par défaut en fait, elle est par défaut partageable.
En fait, quelqu'un qui interprète va enregistrer une musique, qu'elle existe, qu'elle soit déposée à la SACEM ou qu'elle soit en licence libre, doit demander aux ayants droit.
Oui, doit toujours demander l'autorisation. C'est ça. Oui, c'est effectivement ça. C'est les rapports en fait avec les licences libres sont beaucoup plus directs. Et du coup, on va s'arrêter là parce que c'est la prise de la prochaine conférence. Mais du coup, effectivement, les rapports sont directs en fait, donc beaucoup plus directs. Vous n'avez pas à avoir un intermédiaire qui va du coup récupérer des sous parce que c'est les frais de gestion de la SACEM et les frais de gestion d'autres sociétés d'auteurs. Mais derrière, voilà, c'est la multiplication des sociétés d'auteurs multiplie aussi les démarches que vous avez à faire au final. Je vous rappelle juste un truc, hein, il y a 36 sociétés d'auteurs en France. Enfin, 36 sociétés de gestion de droits en France. Donc ça veut dire qu'il y a une complexité énorme par rapport à tous les domaines. Donc ça veut dire que si, par exemple, je fais un disque...
Voilà, je vais devoir mettre fin à la conférence pour ne pas empiéter sur la prochaine. Merci beaucoup.
Merci à vous.